à Perpignan, 12 à Rennes ou encore 15 à Belfort.
Et je vous souhaite une excellente journée à tous. La matinale revient demain dès 6h avec Stéphane Pedrazzi. Dans 3 minutes, Franck Ferrand raconte. Bonjour Franck.
Bonjour Marc.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane ce matin.
C'est ça. C'est... Je ne sais pas si le Groenland est à vendre, mais en tout cas, la Louisiane l'était. Ça, c'est incontestable. Je vais vous raconter dans quelles circonstances.
Eh bien, à tout de suite, Franck.
Chaque heure compte. Passez à l'action avec Bougardier. Des financements sur mesure pour les audacieux, de l'hypothèque à la fiducie sûreté. Et c'est sur bougardier.fr.
9h sur Radio Classique. Les dernières informations, c'est avec Chloé Sénard.
L'année 2024 a été la plus chaude de l'histoire en Europe avec des inondations records. Près d'un tiers du réseau fluvial européen a été inondé l'an dernier selon le bilan du rapport annuel de l'Observatoire européen Copernicus. En tout, plus de 400 000 personnes ont été affectées par les inondations pour un coût des dommages estimé à 18 milliards d'euros. Économiser 40 milliards d'euros en 2026 tout en étant sous la menace d'une censure à l'Assemblée nationale. François Bayrou réunit plusieurs membres de son gouvernement ce matin, ainsi que des parlementaires, des représentants d'organismes de sécurité sociale et des syndicats. Il doit détailler l'état des finances publiques et parler des solutions envisagées. Une décision regrettable qui ne sera pas sans conséquences. Déclaration de Jean-Noël Barrot ce matin après l'expulsion de 12 agents de l'ambassade de France en Algérie en réaction à la mise en examen de ressortissants algériens sur le territoire français. Si l'Algérie fait le choix de l'escalade, nous répondrons avec la plus grande fermeté, a ajouté le ministre des Affaires étrangères. Le gouvernement israélien propose un cessez-le-feu temporaire dans la bande de Gaza avec une grande condition, le désarmement du Hamas et de tous les groupes armés palestiniens à Gaza. Une ligne rouge non négociable selon un responsable du mouvement islamiste palestinien. Mais la direction du Hamas a indiqué étudier la proposition et présentera sa réponse dès que les consultations nécessaires seront terminées. 6 ans après l'incendie de Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron rend hommage à celles et ceux qui ont restauré la cathédrale. Une centaine d'entre eux, charpentiers, restaurateurs d'art, ingénieurs ou encore architectes, recevront la Légion d'honneur et l'Ordre national du mérite cet après-midi. Direction désormais la Bourse de Paris avec vous, Sylvie Aubert. Bonjour, quelle est la tendance à l'ouverture?
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Et bien après un gain de 2,4% hier, et bien le CAC pourrait bien reprendre son souffle ce matin et ce malgré la progression de Wall Street. La guerre commerciale reste bien sûr la première préoccupation des investisseurs, mais les derniers rebondissements donnent un petit peu d'espoir. Donald Trump a déclaré hier qu'il pourrait assouplir les droits de douane touchant les voitures étrangères et les composants automobiles importés aux États-Unis. Le secteur automobile était à la fête hier à Wall Street et il était le plus recherché à la bourse de Tokyo ce matin. Le Nikkei a par ailleurs clôturé sur un gain de 0,8%. Alors après la décision de réduire les taxes sur les smartphones et les ordinateurs, les valeurs technologiques ont aussi rebondi hier à Wall Street, comme Apple par exemple, qui a regagné 2%. Les marchés espèrent qu'après avoir frappé un grand coup, le président américain va poursuivre ses aménagements au cas par cas et que d'autres produits seront exemptés de surtaxes. Dans l'agenda du jour, on attend l'indice ZEW qui mesure le sentiment économique en Allemagne et en zone euro. Et on suivra bien sûr les réactions boursières aux résultats de Publicis ce matin et de LVMH hier soir après bourse. Sylvie Aubert, Investir pour Radio Classique.
Merci beaucoup et on s'envole tout de suite en Louisiane avec vous, Franck Ferrand.
Exactement, et nous allons nous poser cette question toute simple, mais qui mérite quand même qu'on la creuse. Est-ce que Bonaparte a eu raison ou tort de vendre la Louisiane ?
h 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Paris, le 12 avril 1803. Regardez cette belle voiture qui arrive, elle entre dans la cour d'un bel hôtel particulier tout près de la place Vendôme. C'est l'ambassade des tout jeunes États-Unis d'Amérique et dans la cour de l'hôtel particulier, deux personnes descendent de la voiture, deux personnes très importantes. L'un s'appelle Robert Livingston, vous le connaissez, c'est un des pères fondateurs des États-Unis. Il a participé à la rédaction de la Constitution, un homme de 57 ans. Depuis 2 ans, il est maintenant ambassadeur à Paris. Il représente ses tout jeunes jeunes États-Unis d'Amérique. C'est un homme qui connaît très bien les négociations. Il y est rompu, Livingston. Il a été un des premiers secrétaires aux affaires étrangères avant de voyager énormément sur le vieux continent pour défendre les intérêts de ce nouveau pays. Et donc, c'est en France qu'il se trouve, et rapidement après l'arrivée de Bonaparte à la tête du pays, c'est vers lui qu'on s'est tourné pour occuper ce poste d'ambassadeur de France. L'autre, celui qui est avec lui, est un petit peu plus jeune, il a 45 ans, il a tout de même été l'un des officiers importants de la guerre d'indépendance, et vous connaissez son nom puisqu'il s'agit de James Monroe, et que plus tard, 10 ans plus tard environ, il sera lui-même président des États-Unis. Monroe connaît très bien Paris. Il a été ambassadeur américain de 1794 à 1796, autant dire pendant la République thermidorienne et le tout début du directoire. Ce qu'il vient de voir de Paris et même de la France en général le laisse sans voix. En 94, c'était, on sortait de la terreur, hein, c'était la chute de Robespierre, on sortait de la Convention, les guillotines étaient encore un peu partout, on parlait de sang, d'échafaud avec des murs couverts de graffiti qui appelait les citoyens à prendre les armes. Et puis, on voyait partout des grands édifices plus ou moins abandonnés. Tout ça était terrible. Et bien là, c'en est terminé de tout ça. En 1803, on ne parle même plus de citoyens. Monroe a du mal à reconnaître le pays. Il était arrivé au Havre 2 jours plus tôt. Le voilà en plein cœur de la capitale. Envoyé donc par le président Jefferson avec une mission très particulière qui est d'acheter la Nouvelle-Orléans. Vous avez bien compris qu'on n'est pas encore tout à fait sous l'Empire. L'Empire ne sera proclamé que dans un an. Pour l'instant, c'est le consulat à vie, mais Napoléon Bonaparte a remis de l'ordre partout. On ne sent presque plus, un peu quand même, mais presque plus les effets de la Révolution. Évidemment que la Nouvelle-Orléans ça intéresse particulièrement les jeunes États-Unis. Vous imaginez bien, ils sont prêts à se battre pour récupérer un tel endroit. Pour éviter d'avoir recours à la force, James Monroe est donc en mission à Paris avec comme but de négocier avec le consul à vie, premier consul à vie, et son ministre des relations extérieures. Vous connaissez ce ministre puisqu'il s'agit de Talleyrand, bien entendu. Il s'agit de négocier la cession de ce territoire. L'ambassadeur Livingstone s'était rendu au Havre pour accueillir Monroe à la descente de son navire. Il avait l'intention de s'entretenir avec l'envoyé de Jefferson pour lui transmettre les dernières rumeurs qui circulent à Paris concernant ce dossier de la Nouvelle-Orléans. Autant dire que ce n'est pas de bonnes nouvelles puisqu'une expédition militaire française est en train de se former, qui s'apprête à se rendre en Louisiane pour explorer l'immensité de ce territoire. Parce qu'il n'y a pas que la Nouvelle-Orléans, il y a un territoire absolument gigantesque là derrière. Autant vous dire que pour ces deux très importants représentants des États-Unis, la négociation qui s'annonce va être sans doute tendue et difficile.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, il faut peut-être quand même revenir sur la base de toute cette histoire et se demander pourquoi la France possède cette Louisiane. Vous vous rappelez peut-être qu'à la fin de la guerre de 7 ans, désastreuse guerre de 7 ans, au moment du retournement des alliances, sous le règne de Louis XV, la guerre a duré de 1756 à 1763. Elle s'est terminée par le traité de Paris, désastreux pour la France, qui a perdu tous les territoires qu'elle possédait sur le continent américain, excepté quelques possessions dans les Antilles et Saint-Pierre et Miquelon. C'était les deux exceptions. La France avait perdu ce qu'on appelait la Nouvelle-France, hein, ce gigantesque territoire qui couvrait à la fois le Québec, l'Acadie, la Louisiane englobant le fleuve Saint-Laurent, les Grands Lacs, tout le bassin du Mississippi, vous imaginez. La France perd aussi des territoires en Inde, hein, tout, elle n'avait conservé que 5 comptoirs, vous savez bien, Pondichéry, Chandernagore, Karikalma et Anaon. Et puis, la France, d'une certaine façon, c'était recentré sur son territoire originel. Concernant la Louisiane, la France a préféré la rétrocéder aux Espagnols. Voilà ce qui s'est fait en 1763. N'oubliez pas que la couronne d'Espagne, Bourbon, était alliée à la couronne de France, bien sûr. La France n'a jamais perdu de vue la possibilité de retrouver la souveraineté de tout ce territoire. Et pour s'imaginer la taille de la Louisiane, eh bien, dites-vous que ça représente tout simplement un tiers. Je dis bien un tiers des États-Unis actuels. En Europe, on n'a jamais tellement eu l'occasion de se représenter véritablement l'immensité de ce territoire. Ce qui intéresse les Européens et les Français en l'occurrence, ce sont les richesses qu'on s'imagine très nombreuses sur ces terres. Et évidemment que Bonaparte ne perd pas de vue la Louisiane. Jean Tullard, que j'ai toujours grand plaisir à citer et à saluer, vient de faire paraître dans la jolie collection Vérités et Légendes chez Perrin, un ouvrage qui donc s'intitule Napoléon, Vérités et Légendes. Et dans ce livre, il questionne tous les lieux communs qui peuvent exister sur Napoléon. Et parmi les 30 chapitres, il y en a un, bien sûr, consacré à la vente de la Louisiane. Et voici ce que nous dit Jean Tullard. Bonaparte reprend à son tour l'idée d'une reconquête de la province perdue. Il est poussé par la bourgeoisie des ports de l'Atlantique qui entendait développer ses activités commerciales avec l'Amérique. S'esquisse l'idée d'une sorte d'empire colonial mettant en rapport la Louisiane et Saint-Domingue, Saint-Domingue producteur de coton et de sucre, après la victoire de Marengo. Bonaparte enjoint aux représentants français auprès de la cour de Madrid de faire pression sur le roi Charles IV pour obtenir la cession de la Louisiane à la France. La Louisiane coûtait plus qu'elle ne rapportait à l'Espagne et Charles IV se laissa convaincre. Le 1er octobre 1800 est signé le traité de Saint-Ildefonse par lequel l'Espagne rétrocède à la France la province de Louisiane avec la même étendue que lorsque la France la possédait. En contrepartie, la France s'engageait à augmenter le duché de Parme d'une partie de la Toscane et autorisait le duc de Parme, qui était le gendre du roi d'Espagne, à porter le titre de roi d'Étrurie. Ce qui intéresse Bonaparte, c'est la plateforme commerciale magnifique qui pourrait être installée, organisée dans le port de la Nouvelle-Orléans en relation avec les très riches colonies antillaises. On ne voit pas ce qui pourrait motiver les Français à accepter de rétrocéder la Nouvelle-Orléans à cette nation, certes amie, mais toute jeune et à l'époque pas très importante encore, que sont ces lointains États-Unis d'Amérique. Quand je vous dis que la négociation va être compliquée, elle s'annonce même particulièrement ardue pour les deux représentants américains. Une ouverture de circonstances d'Alexander Reinagle, qui est un compositeur américain de cette époque. L'ensemble Symphonia Finlandia était sous la direction de Patrick Gallois.
Vous écoutez Radio Classique.
Dans un premier temps, les Français vont pas révéler aux Américains qu'ils viennent d'acquérir la Louisiane. Ils savent que cette question est un sujet brûlant de l'autre côté, là-bas. Il y a d'ailleurs de nombreuses tensions entre Espagnols et Américains au cours des 40 années qui se sont développées depuis l'indépendance américaine. Des coups de feu ont été échangés entre les deux rivages du fleuve Mississippi pour des sujets qui peuvent sembler mineurs, mais qui, à chaque fois, auraient tout à fait pu dégénérer. Les États-Unis voudrait bien sûr récupérer le port de la Nouvelle-Orléans, qui est le grand port de la côte sud du pays. Pour l'instant, ils ne s'intéressent pas encore vraiment à la Louisiane en général. Ils estiment que là-bas, il n'y a pas grand-chose à faire dans ces territoires gigantesques et peu fertiles. C'est le port, c'est le commerce qui intéresse le président Jefferson, bien sûr. Et d'ailleurs, la nouvelle de l'acquisition de la Louisiane par la France ne va pas rester secrète très longtemps. Quand je dis de l'acquisition, de la récupération, devrait-on dire. La confirmation arrive aux oreilles du président américain dès le 18 avril 1803. Il dit « Il est sur le globe un point dont la possession par un pays étranger est pour nous un danger certain, c'est la Nouvelle-Orléans ». Et plusieurs sénateurs américains affirment qu'ils seraient prêts à déclarer la guerre à la France pour cette question. Inutile de vous dire que Bonaparte ne se soucie pas tellement de cela. La Louisiane, alliée à Saint-Domingue, serait une très grande chance pour le commerce français, une grande source de richesse, et dans la période où l'on est, en sortant de la Révolution, évidemment, c'est très important. Toutefois, il va y avoir quelques déconvenues dans les plans du consul. La première déconvenue, c'est qu'il n'arrive pas à récupérer Saint-Domingue aux mains de Toussaint Louverture. Vous rappelez cette histoire que j'ai eu l'occasion de vous raconter. Il y a plusieurs expéditions qui ont été mises en échec. Et puis, l'océan à l'époque, l'océan Atlantique, est complètement dominé par la marine britannique. Les Anglais sont partout, qui ne laissent évidemment pas les navires français en paix. Parce que la paix d'Amiens, qui vient tout juste d'être signée, n'est pas bien respectée. Et il devient assez vite évident que la guerre, tôt ou tard, va de nouveau éclater entre les deux grandes puissances du vieux continent. Alors, si je reviens au 12 avril 1803, au moment où James Monroe arrive à Paris pour négocier l'achat de la Nouvelle-Orléans, au même moment, Bonaparte est en train de s'entretenir avec son ministre du Trésor, qui est Barbé Marbois, et avec Decret, le célèbre ministre de la Marine. Les trois hommes sont en train de discuter justement de ce projet, parce que au même moment, il y a une expédition qui doit partir de Hollande pour aller prendre possession de la Louisiane, qui depuis 3 ans est encore de facto sous présence espagnole. Donc il faut agir assez rapidement, et Bonaparte, de plus en plus, penche pour une vente de la Louisiane. Et alors, quand il dit vente de la Louisiane, il ne s'agirait pas de faire de quartier, on pourrait vendre l'ensemble aux États-Unis. Il demande à ses deux ministres ce que eux en pensent. Le ministre du Trésor, c'est toujours la même histoire, vous savez, les siècles se suivent et se ressemblent de ce point de vue. Bien sûr que le ministre du Trésor est favorable. Les ministres du Trésor sont toujours favorables à ce qu'on vende tout, puisque leur but, c'est d'améliorer la trésorerie. Voici ce que dit Barbé Marbois. La guerre avec l'Angleterre est inévitable. D'ailleurs, sans employer leur flotte, les Anglais peuvent gagner la Louisiane par les Grands Lacs. La France n'a là-bas ni troupes ni vaisseaux, une frontière non fortifiée de 400 lieues, autant dire 800 kilomètres. Si les Anglais ne s'en saisissent pas, les Américains le feront et bientôt nos commerçants eux-mêmes reconnaîtront que la Louisiane libre leur offre plus de chances de profit que la Louisiane soumise au monopole. Des comptoirs sont aujourd'hui préférables aux colonies et même à défaut de comptoirs, laissez faire le commerce. Bon, ça c'est les arguments de la trésorerie, si je puis dire. Le ministre de la Marine, lui, n'est pas du tout de cet avis. Et ça c'est la même chose, c'est tout à fait normal, il est dans son rôle. « Citoyen consul, dit Decret, ce n'est pas à vous qu'il convient de redouter l'Angleterre. Si elle s'emparait de la Louisiane comme on voudrait le faire craindre, le Hanovre serait aussitôt entre vos mains, un gage certain de restitution. Le pays est connu, des forts existent, la terre est fertile et les grandes dépenses sont faites. Il n'est pas sur aucun point du globe un point susceptible de devenir aussi important que la Nouvelle-Orléans. Le Mississippi n'y arrive qu'après avoir reçu 20 rivières, dont plusieurs surpassent les plus grands fleuves d'Europe. » Et à mesure qu'il parle, le ministre voit bien que Bonaparte songe à autre chose. Il n'est pas d'accord. Le premier consul sait que l'Espagne a beaucoup perdu d'argent en Louisiane les dernières décennies. La France doit se préparer à mener en Europe une guerre très importante. C'est pas le moment d'aller perdre de l'argent sur un nouveau continent pour avoir probablement le même résultat qu'avait eu Louis XV 40 ans plus tôt avec sa guerre de 7 ans. Et puis, il y a une autre idée qui vient à Bonaparte. Il se dit que vendre la Louisiane aux États-Unis, c'est permettre aux États-Unis de devenir une grande nation qui pourrait rivaliser avec la nation anglaise et donc l'affaiblir, non seulement là-bas sur le territoire américain, mais d'une façon plus générale sur les mers du globe. Et ça permettrait aussi... D'abord, ça permet d'affaiblir l'Angleterre, et tout ce qui affaiblit l'Angleterre fait du bien à Napoléon, mais ça permettrait aussi de renforcer cette amitié franco-américaine sur laquelle on pourrait ensuite faire foi. Bref, faire fond. À la fin de la réunion, Bonaparte en est convaincu, les Américains sont intéressés par la Nouvelle-Orléans, et ben s'ils le veulent, on va leur vendre la Louisiane.
Wir sind zusammen, wir haben sie angebracht. Und sind wir nun zusammen, wir
Le chant de fraternité de Beethoven par l'Orchestre symphonique de Londres et The Ambrosian Chorus sous la direction de Michael Tilson Thomas.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Bon, ça y est, l'avis du premier consul, enfin du consul à vie maintenant, qui va devenir empereur d'ailleurs dans quelques mois, est totalement fait. Et il s'agit de négocier. Et qui va négocier avec les deux représentants de la jeune nation américaine? Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est le ministre des Relations extérieures? C'est Talleyrand, bien sûr. Qui, vous connaissez sa tactique, va faire patienter les deux malheureux pendant le plus longtemps possible. Le but, c'est qu'on comprenne comment il faut procéder pour être reçu par monsieur Talleyrand. Il faut mettre la main à la poche. Talleyrand marchande toujours ses bons offices, vous savez. Et Livingstone et Monroe sont deux personnes qui ont déjà eu à plusieurs reprises affaire au diable boiteux. Ils se plient donc à tout ce procédé. Oh, ils vont plus attendre très longtemps. À partir du moment où vous apportez les pièces d'or, tout va bien. Les deux hommes sont donc reçus. Talleyrand est très courtois. Il leur demande, c'est la question centrale, combien votre gouvernement paierait est-il pour la cession de la totalité du territoire de la Louisiane ? Monroe est un peu surpris quand même. Il était venu pour discuter de l'achat de la Nouvelle-Orléans et voilà qu'on lui propose un territoire aussi vaste. Un territoire qui fait d'ailleurs, pour être tout à fait clair, trois fois la taille du territoire américain de l'époque, parce qu'on est encore dans les tout jeunes États-Unis, bien sûr, qui ne se sont pas développés. Monroe répond que son gouvernement est intéressé. Et de toute façon, il n'a pas le choix. Face à une proposition pareille, il ne va pas se montrer bégueule, hein, bien sûr. Il demande quelques jours quand même pour réfléchir. Il faut qu'on établisse une somme qu'on pourrait proposer, qui serait raisonnable, qui serait acceptable des deux côtés. Talleyrand remercie les deux Américains. Il précise que désormais, c'est avec le ministre du Trésor qu'ils devront traiter, avec Barbet Marbois. Et quelques jours plus tard, face au ministre, Monroe va proposer la somme de 50 millions de francs. On parle évidemment des francs or de l'époque, vous imaginez, c'est une somme quand même très importante. Mais Barbet Marbois se dit que la somme n'est pas à la mesure d'un territoire aussi gigantesque. Voici ce que dit le ministre. Le prix est fixé à 80 millions. Il serait inutile de proposer une réduction. N'est-ce pas pour les États-Unis une somme bien inférieure à la valeur de ces immenses territoires ? Monroe ne négocie donc pas, il accepte 60 millions qui seront donnés directement à la France et 20 millions qui permettront d'éponger un certain nombre de dettes. Et en vue du versement de cette somme très importante, est établi un traité. Voici ce qu'écrit Jean Tullard. Le préambule du traité est ainsi rédigé, nous dit Jean Tullard. Le premier consul de la République française au nom du peuple français et le président des États-Unis d'Amérique, désirant prévenir tout sujet de mes intelligences. Voilà comment ça commence. En fait, dit Jean Tullard, Bonaparte aimait le jeu d'échecs. L'abandon d'une pièce peut être gagnant. Céder la Louisiane permettait déjà à Bonaparte, dans l'immédiat, de contrecarrer la puissance anglaise et de restaurer l'amitié franco-américaine. Mais il voyait plus loin. Cette transaction affermit pour toujours la puissance des États-Unis. Il leur assurait la vaste expansion territoriale qui leur a permis de devenir une grande puissance. Et paradoxalement, le traité fut mal accueilli aux États-Unis. Certains auraient souhaité qu'il fût limité à la Nouvelle-Orléans. Pourquoi acquérir tous ces vastes territoires peuplés de serpents à sonnettes, de coyotes et de sioux, et pour une somme jugée énorme ? Nécessairement, le traité va décevoir tout le monde. Il suscite des critiques aux États-Unis, mais il suscite aussi des critiques en France, bien sûr. Vous imaginez notamment la situation des Français qui se trouvaient, eux, en Louisiane à l'époque, et qui voient leur pays, leur métropole, les abandonner. On écrit dans le traité qu'ils sachent que nous nous séparons d'eux à regret et qu'ils se souviennent qu'ils ont été français, que l'origine, comme la parenté, le langage, les mœurs perpétuent l'amitié. On a envie de dire, mais décidément, ce Bonaparte ne recule devant rien.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Ce qui est assez incroyable, c'est que la France a vendu la Louisiane sans même avoir pris le temps de récupérer ce territoire à la suite du traité de 1800 qui avait été passé avec l'Espagne, rappelez-vous. Et de plus, dans la constitution de l'an 8, auquel a succédé l'acte organique du 4 Thermidor en 10, le Sénat devait régler les questions des colonies. C'était une prérogative sénatoriale, ça ne relevait pas des prérogatives du premier consul, cette histoire. Bonaparte ne pouvait donc pas, constitutionnellement, il ne pouvait pas disposer, comme il l'entendait, de la Louisiane. Mais on sait que celui qui, dans quelques semaines, se fera appeler Napoléon Ier, n'est pas très regardant sur ce genre de circonstances. L'expédition qui devait se rendre en Louisiane est annulée, ça fait des économies supplémentaires. Les traités sont conclus le 30 avril 1803, mais le temps qu'on arrive à tout traduire, il faut attendre le 8 mai pour que soient signés les traités. Bonaparte déclare « Je viens de donner à l'Angleterre une rivale maritime qui, tôt ou tard, abaissera son orgueil. » Oui, c'est un des aspects des choses et c'est celui qui était le plus essentiel aux yeux de Bonaparte. Est-ce que pour autant il a eu raison de vendre la Louisiane aux Américains ? Vous savez que ça lui est beaucoup reproché, bien entendu. La question aussi, c'est de savoir si la France avait les moyens de maintenir sa présence de façon efficace sur des territoires aussi gigantesques et à l'époque aussi improductifs. On peut imaginer que les États-Unis n'auraient de toute façon pas très longtemps accepté la présence d'une si grande puissance directement à leurs frontières. On aurait pu entrer dans une guerre avec les États-Unis. Enfin, de toute façon, ne faisons pas d'uchronie. La vérité, c'est que ce territoire absolument gigantesque, cette nouvelle France, a été vendue et bien vendue aux jeunes États-Unis.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci à Jean-Baptiste Galen. Bonjour à notre Christian Morin.
Bonjour, alors, mon cher Franck.
J'ai entre les mains un trésor que les auditeurs, eux, ne peuvent pas encore avoir, puisqu'il n'est pas encore arrivé dans les librairies. C'est une question de jour, je crois.
Le livre sort jeudi.
Jeudi, ce qui veut dire qu'on pourra le trouver facilement à partir de lundi ou mardi prochain.
Même vendredi, je pense que les mises en place sont déjà
prévues.
Espérons.
Voilà. En tout cas, le livre s'appelle « J'ai tant de choses à vous raconter ». Il est signé de Christian Morin, qui nous raconte ses mille vies à la radio, à la télé, dans le dessin, dans la musique, bien sûr, et sur les planches et devant les caméras. Bref, un destin, une figure, une voix, un caractère que vous connaissez, que vous aimez et que nous retrouvons au fil de ces quelques 350 pages que vous nous offrez chez Ixo.
Une manière de raconter une autre histoire que les vôtres, bien sûr, mon cher Franck, là, c'est tout à fait personnel.
C'est un peu la grande histoire qu'on voit constamment apparaître à travers.
De toute façon, c'est un parcours, c'est générationnel, comme l'on dit. Mais ce que je voulais surtout raconter, c'est un peu ce qu'il y a derrière cette roue de la fortune qui marque au fer rouge.
Alors ça, bien sûr, oui.
C'est la roue qui casse la forêt. Alors, là, on va rentrer dans la forêt parce qu'il y a tout un autre parcours parallèle, vous le disiez, avec le dessin, les beaux-arts, la musique, etc., etc. Des rencontres, surtout, des rencontres formidables que nous amène la radio. Vous connaissez ça aussi bien que moi. En tous les cas, merci d'en parler.
Ah non, merci à vous.
J'en profite d'ailleurs.
On aura l'occasion d'en reparler,
oui,
bien sûr.
Pour dire aux auditeurs que ce sera l'objet de quelques cadeaux au moment du trio classique. On en profitera pour en offrir quelques-uns. Merci de cette publicité que vous faites.
D'ailleurs, le livre est co-édité par Radio Classique.
Exactement, chez Ixo Éditions. Alors, vous parliez de la Louisiane. Forcément, les noms français traînent encore. Bourbon Street, Toulouse Street, quand on va se promener dans le quartier français à la Nouvelle-Orléans. Et puis, chez beaucoup de musiciens, Sidney Bechet, par exemple, c'était des noms créoles. Mais qui venait de la langue française. Et puis, cet après-midi, on va changer de sujet avec un diariste, Jules Renard, et la Belle Époque. Alors là, ça va être épatant.
Bon, Jules Renard, c'est tout l'esprit français.
Avec
Vachard, toujours.
Avec les mots d'humour. Je me demande d'ailleurs si, dans le livre, je vais vérifier que je ne dise pas de sottises. Je vérifie avec vous. C'est ça. J'ai mis en exergue cette phrase. Nous sommes ici-bas pour rire. Nous ne le pourrons plus au purgatoire ou en enfer. Et puis, au paradis, ce ne serait pas correct. C'est Jules Renard qui disait ça, à suivre cet après-midi avec Franck Ferrand. Merci mon cher Franck, et
bonne
on se retrouve demain matin avec bonheur.
Cuisine Ixina présente, la cuisine à 2 990 € avec le plan 3D offert.
Super ce plan, on se projette bien là.
Ouais, je te vois déjà ranger la vaisselle.
Ah, on doit pas avoir le même plan.
Ixina, des offres qui ont tout compris à la vie. Voir conditions sur ixina.fr.
Françoise, donatrice à la Fondation du patrimoine.
Notre patrimoine est en danger. Nos églises, nos petits théâtres, nos moulins, nos lavoirs disparaissent de nos paysages. Alors pour que nos enfants connaissent ces merveilles, j'ai fait un legs à la Fondation du patrimoine. J'aide ainsi son réseau de bénévoles, partout en France, à sauver cet héritage, témoin de notre histoire.
Contactez la Fondation du patrimoine au 09 80 80 99 98 ou sur fondation-patrimoine.org.
Partez pour une épopée musicale pétillante aux Flâneries musicales de Reims. De Vivaldi à Ravel, de Mozart aux années folles, vivez une quarantaine de concerts en compagnie d'artistes d'exception. Avec notamment la Camerata de Salzbourg, les orchestres du Luxembourg et de Liège, Elisabeth Lianskaya, Jean-Paul Gasparian, Florian Noack ou encore le Trio Pascal. Grands noms et talents prometteurs seront à Reims du 19 juin au 11 juillet dans une programmation éblouissante à découvrir sur flânerie-reims.com.
Bonjour, c'est Alain Duhaut. Boston, New York, la Nouvelle-Écosse. Cet automne, je vous attends avec Radio Classique sur un yacht ponant raffiné pour une croisière de rêve. Avec la grande Shani Di Luca et John Gade au piano, le prodige du violon Luca Faolisi, Christian-Pierre Lamarca au violoncelle, la clarinette star de Pierre Génisson, la trompette feu de Lucienne Renaud d'Avary et en option la comédie musicale Chicago au cœur de Broadway.
Réservez dès maintenant votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
Depuis plus de 4 siècles, Château Lagrange crée de grands vins et des millésimes remarquables. Une vocation inscrite dans le terroir de ce domaine emblématique de Saint-Julien. Au cœur du Médoc, la propriété vous accueille pour des visites privées, verticales de millésimes à l'aveugle, dégustation à la barrique et la découverte de sa table gastronomique d'exception. Entrée dans le domaine Château Lagrange, troisième grand cru classé depuis 1855. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Amazon offre à ses salariés jusqu'à 8000 euros pour se former et booster leur carrière. Comme Juliette, elle est maintenant technicienne qualifiée. Et pour elle, le son d'une machine qui a besoin d'être réparée lui rappelle tout le chemin parcouru. En 2 ans, elle a décroché l'emploi de ses rêves et a acquis des compétences utiles. Amazon offre à ses salariés jusqu'à 8000 euros pour se former et booster leur carrière, sous condition d'éligibilité.
midi, tous classiques, avec Christian Morin, sur Radio Classique.
Et un jour anniversaire en vous disant bonjour. Ce matin, jour anniversaire de la naissance d'un chef d'orchestre que vous connaissez, on l'entend souvent sur cette antenne avec l'Académie de Saint-Martin in the Fields, mais il n'a pas dirigé que cette formation. C'est Sir Neville Mariner qui est né le 15 avril 1924 à Lincoln, en Angleterre. Il rentre à l'âge de 13 ans dans une classe de violon au Royal College de Musique de Londres. Avant de poursuivre des études, c'est étonnant, mais avec René Benedetti au Conservatoire de Paris. Et puis ensuite, il a été membre d'abord d'un quatuor à cordes, puis d'un orchestre de chambre, et il va intégrer l'orchestre Philharmonia avant d'être de 1956 à 1968 chef des seconds violons du Symphonique de Londres, belle référence, mais il va étudier aussi la direction d'orchestre auprès d'un Français, Pierre Monteux, durant des sessions d'été dans le Maine, aux États-Unis, et il commence lui-même à diriger en 1969. Ici, on va le retrouver en 1978 avec cette formation qu'il a portée à bout de bras, l'Académie de Saint-Martin in the Field, pour le premier mouvement de la symphonie numéro 25 de Mozart. Avec la symphonie numéro 25, le premier mouvement ici, Allegro con brio, dirigé par Saint-Neville Mariner à la tête de l'Académie de Saint-Martin in the Field. C'est en 1958 qu'il crée l'Académie de Saint-Martin in the Field, du nom de l'église que connaît bien d'ailleurs Bertrand Druini, notre réalisateur, du nom de l'église londonienne où se produit cet orchestre de chant pour la première fois le 13 novembre 1959. À la tête duquel cet orchestre, il est très attaché, il a réalisé des centaines d'enregistrements consacrés au répertoire baroque et classique. La Leur premier disque paraissait sous une étiquette qui s'appelait L'Oiseau Lyre, puis Argot, chez Decca. Et les deux disques d'or qu'il obtient déjà pour les quatre saisons du Vivaldi en 71 permettent de rentabiliser l'ensemble du label. Mais alors, il s'est passé un événement, surtout, c'est Sir Neville Mariner qui a enregistré toute la bande originale du film de Milos Forman, Amadeus. Et ce disque s'est vendu à plus de 6 millions d'exemplaires à travers le monde. Mozart était d'ailleurs un des compositeurs de prédilection et son intégrale des symphonies de jeunesse reste une référence. La preuve, là encore, en 2016, c'est un des tout derniers enregistrements de Mariner qui nous a quittés le 2 octobre 2016 à 92 ans. Il dirigeait encore, ici avec Yeol Eumson au piano. C'est le deuxième mouvement du concerto pour piano et orchestre numéro 21. Mozart, magnifique. Thank you. Yeol Eumson au piano, Sorneville Mariner dirige ici le deuxième mouvement du concerto pour piano et orchestre numéro 21 de Mozart. Donc il nous quitte le 2 octobre 2016 à 92 ans. Il laisse un legs discographique monumental. On estime le nombre de ses enregistrements à 500, principalement pour Philips, Decca et Warner. Et puis parmi ses auteurs, ses compositeurs de prédilection, outre Mozart bien sûr, Handel, Corelli, Rossini, l'intégrale des ouvertures, Bach, Schubert, et puis n'oublions pas Beethoven ici avec quelques contredanses, la 7e contredanse qui énonce de façon gracieuse le thème de l'héroïsme.
Thank you.
C'est la septième contredanse avec laquelle nous terminons l'évocation de Beethoven dirigée par Sir Neville Mariner, qui est reprise dans les variations Eroica et le final du ballet de Beethoven, Les créatures de Prométhée, comme de la symphonie héroïque. Voilà, donc évocation de Sir Neville Mariner, qui était né, je le rappelle, le 15 avril 1924, puisque nous sommes un 15 avril, nous en profitons. Et puis je voudrais, avec Francis Drezel, vous donner un rendez-vous ce soir. Il évoquera un immense violoncelliste français qui s'appelle André Navara. Le rendez-vous, bien sûr, est celui de Francis de 23h à minuit pour le disque portrait, mais vous le retrouverez dès 20h30 après le journal du classique. Et je fais un petit clin d'œil à toute l'équipe de Radio Classique qui se trouve actuellement à Aix-en-Provence. Je vous rappellerai d'ailleurs tout à l'heure quelques concerts qui sont dans les perspectives des jours à venir. Et je fais un clin d'œil, bien sûr, à celle qui dirige ce journal du classique, c'est Laure Maison.
Retrouvez les carnets de Gauthier Capuçon du lundi au vendredi à 17h sur Radio Classique. Cette émission est disponible en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes de streaming habituelles.
Cyrus Erez, gestion de fortune, orchestre votre patrimoine en toute harmonie. Grâce à notre approche en architecture ouverte, votre patrimoine devient une œuvre qui allie sérénité, performance et héritage familial. Ensemble, composons une symphonie patrimoniale qui résonnera aujourd'hui et demain. Cyrus Erez, la gestion de fortune depuis 1989.
Mano Mano. Regardez son jardin en friche. Allez sur Mano Mano, chercher une tondeuse, trouver la Makita sans fil à seulement 135 euros, se faire livrer rapidement, passer son samedi au grand air. Vous savez tout. En avril, les prix bas jardin sont chez Mano Mano.
Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
Mano Mano. Offre soumise à condition, voir détails sur manomano.fr.
Le festival Mille et Une Notes célèbre 20 ans de musique et de fêtes. Vivez une édition exceptionnelle avec Nemanja Radulovic, Alexandre Tarot, Jean-François Zigel, Anne Kefelec, le duo Lucienne Renaudin-Vary, Félicien Brut et bien sûr Chloé Mézy aux commandes de l'Orchestre Symphonique Mille et Une Notes. Et pour clôturer cette édition spéciale, Mozart, par l'immense pianiste Katia Bougnatichvili. Le festival Mille et Une Notes à Limoges, du 15 au 19 juillet. Réservation sur festivalmilleetunenotes.com.
Radio Classique et la salle Gaveau présentent Ravel ou le voyage imaginaire. En compagnie de Franck Ferrand et du pianiste Jean-Frédéric Neuburger, venez vivre entre récits et musique toute la féerie et l'émotion envoûtante de l'univers de Maurice Ravel. Ravel ou le voyage imaginaire. Avec Franck Ferrand et Jean-Frédéric Neuburger, un concert Radio Classique mercredi 4 juin, salle Gaveau à Paris. Réservation au 01 49 53 05 07 ou sur salgaveau.com.
Je crois en la vie éternelle. La foi guide ma vie. En léguant à l'Église catholique, je témoigne de mon attachement à Jésus-Christ et à la mission de l'Église. Rendez-vous sur jecroisjelegue.catholique.fr ou contactez votre diocèse pour faire un legs. Léguer à l'Église catholique, c'est dire oui à l'espérance, maintenant et toujours.
Tout de suite, la Minute des Épargnants. Avec l'affaire.
Gérard Beckerman, bonjour. Comment appréhender la justice fiscale ?
Il faut remettre l'impôt à sa place. Pourquoi il est contesté, l'impôt ? Parce qu'il est excessif. Jean-Baptiste Serres, un grand économiste du 19e siècle, disait « Le meilleur de tous les impôts, c'est le plus petit. » Cessons de croire que c'est par l'impôt qu'on pourra être juste et réduire les inégalités. Ces inégalités, elles ne se vivent pas parce que les Français sont contribuables. Elles existent parce qu'ils sont consommateurs. La justice, elle implique une nouvelle philosophie des valeurs fondée sur le travail. Peggy le disait, le travail, c'est une prière.
Merci Gérard Beckerman.
Ensemble, construisons une génération d'avenir. Rejoignez l'Association française d'épargne et de retraite. Rendez-vous sur affaire.fr, A-F-E-R.fr.
Radio Classique.
Mais c'est votre canapé qui fait ce bruit.
Vous méritez mieux. Vous méritez un nouveau poltronnet sofa. Avec 30% de remise sur beaucoup de canapés comme en exposition.
Ah là, on entend quel confort. Poltronnet sofa, 30 ans de qualité.
Et voilà.
30 ans de qualité, vérifiez les conditions en magasin.
Vous êtes bien
avec Radio Classique.
Merci.